Bonjour à tous. C'est vraiment une joie et un privilège pour moi d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous apporter justement les salutations de l'Église réformée baptiste du Grésivaudan qui se trouve à Domaine. On vient d'arriver dans la région, ma femme et moi, il y a quelques semaines seulement. Je viens de prendre ce poste et c'était une bonne surprise pour moi d'apprendre en arrivant qu'il y avait déjà une date qui était fixé pour moi pour venir prêcher ici. J'ai beaucoup entendu parler en fait de votre église, même avant d'arriver ici. J'ai des bons amis qui sont originaires de cette église. Et donc je suis très content, très heureux des liens qui existent entre nos deux églises. Donc c'est vraiment un privilège pour moi d'être là ce matin. J'aimerais qu'on lise ensemble un passage dans l'Ancien Testament, donc dans le livre de l'Exode. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir avec moi. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Et on va lire les 15 premiers versets. Si vous avez une Bible, ce serait utile de l'avoir ouverte dans les yeux. Vous trouvez ça utile, je pense, parce qu'on va s'arrêter sur quelques versets en particulier. Exode, chapitre 3, les 15 premiers versets. Vous vous rappelez peut-être où on se trouve dans l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est esclave en Égypte à ce moment-là. Moïse, qui est un Israélite, a dû fuir l'Égypte, et Dieu se révèle à lui pour lui annoncer qu'il va délivrer le peuple d'Israël et qu'il va le faire par son moyen, par le moyen de Moïse. Donc, Exode, et en fait je vais lire à partir du verset 23 au chapitre 2, donc juste quelques versets avant le chapitre 3. Longtemps après que Moïse ait dû fuir l'Égypte, le roi d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Leur appel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici !» Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. » Voilà, jusqu'ici, cette lecture dans la parole de Dieu, dans ce passage où Dieu nous révèle son nom, quel est son nom. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin au psaume 9. David, le roi David, dit la chose suivante, il dit « Ceux qui connaissent ton nom, éternel, ceux qui connaissent ton nom, se confient en toi. » Et c'est précisément ce que ce passage en Exode 3 devrait produire en nous ce matin, une profonde confiance dans ce Dieu qui nous révèle son nom. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Roméo et Juliette. Ça vous dit quelque chose, bien sûr, je pense. Hein, vous connaissez l'intrigue de l'histoire ? Est-ce que vous savez où ça se passe ? À Vérone, en Italie, exactement. Et vous savez que l'histoire commence avec cette rivalité qui oppose deux familles, hein, les Montaigu et les Capulet, une rivalité qui ensanglante toute la ville de Vérone, en Italie, justement. Et Roméo, qui est l'héritier des Montaigu, je crois, tombe follement amoureux de Juliette. Alors jusque-là, tout va bien, sauf que Juliette est une Capulet. Hein. Et c'est ça toute l'intrigue, parce que bien sûr, à cause de leur appartenance à ces deux familles, à cause de leurs noms respectifs, eh bien, leur histoire d'amour, elle est condamnée d'avance. Et il y a ce moment assez au début de l'histoire où Juliette vient vers Roméo et elle le supplie, elle lui demande de changer de nom, en fait, pour qu'ils puissent vivre ensemble. Et voilà ce qu'elle dit, écoutez bien. « Qu'y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. » Vous voyez ce qu'il dit ou ce que Shakespeare dit ? « Qu'y a-t-il dans un nom ? » Finalement, un nom, c'est juste un label. On peut le prendre, le changer, et ça affecte en rien l'identité ou le caractère de la chose ou de la personne qui porte ce nom. Une rose, elle sentirait toujours aussi bon, même si on décidait ensemble de l'appeler un pissenlit ou autre chose, hein, ça ne changerait rien, c'est ça qu'il dit. Seulement, les auteurs bibliques n'avaient pas lu Shakespeare. Donc dans la pensée hébraïque, ce n'était pas la même chose. Le nom d'une personne, dans la pensée hébraïque, est étroitement lié à son identité, à son caractère. Vous pouvez penser à Ève. Ève, ça veut dire « vie », parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Vous pouvez penser à Noé. Noé, ça veut dire repos, parce que quand il est né, le père de Noé a dit que Noé nous consolera de la peine que nous cause notre dur travail sur le sol que l'Éternel a maudit. En d'autres termes, il va nous donner du repos. Vous pouvez penser encore à Moïse, même Moïse dans notre passage, ça veut dire tirer ou retirer. Vous vous rappelez qu'à sa naissance, Moïse a été retiré des eaux par la princesse, la fille du Pharaon. Donc vous voyez, dans la Bible, le nom d'une personne, ça résume en fait qui elle est. Et moi, je me faisais même la réflexion, je me disais, en fait, même pour nous aujourd'hui, ce n'est pas si étrange que ça. J'ai vu plein d'enfants et de petits partir, là, avant. Vous qui êtes des jeunes parents et qui avez dû réfléchir à un prénom pour vos enfants, honnêtement, est-ce que dans la liste que vous avez faite des jolis prénoms à donner à vos enfants, il n'y a pas quelques-uns qui n'étaient pas moches en soi, mais vous avez juste rayé de la liste parce que ça vous faisait penser à une personne pas très agréable ou une personne avec un mauvais caractère. Hein, vous êtes d'accord, les noms, ça signifie quelque chose. Et c'est particulièrement vrai dans la Bible. Les noms sont importants parce qu'ils nous révèlent la nature profonde et le caractère de la personne qui le porte. Et c'est pour ça que la question de Moïse au verset 13, elle est tellement importante. Regardez encore une fois. Au verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites. » Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, c'est-à-dire quel est son caractère, comment est-ce qu'il est ce Dieu, que leur répondrai-je? Et la réponse de Dieu au verset suivant, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et puis il ajoute encore plus loin, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Voilà comment est-ce qu'il est, ce Dieu. Voilà qui il est. Alors, il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait dire concernant le nom de Dieu, qui il est, même ici dans ce passage. Moi, j'en ai retenu trois vérités concernant Dieu qui nous apparaissent à nous, vous allez voir, comme des grandes contradictions. Pas qu'il y ait quelque chose de contradictoire en Dieu lui-même, mais c'est des vérités qui nous apparaissent à nous contradictoires, mais qui sont en fait parfaitement vraies de Dieu. Parce que, après tout, le nom que Dieu nous donne et qu'il décrit son caractère profond, c'est « Je suis celui qui suis ». Si ça, c'est pas déjà une grande contradiction pour notre esprit, hein, si ça explose pas déjà nos catégories humaines, vous voyez. Donc, trois choses. La première chose à laquelle le nom de Dieu renvoie ici, c'est sa fidèle absence. La fidèle absence de Dieu. Vous aurez compris que j'ai fait exprès, volontairement, de choisir deux mots qui nous semblent à nous contradictoires. Okay ? Fidèle absence, c'est le premier point. Et il faut qu'on commence en se demandant, finalement, il en est où Moïse dans ce passage ? Nous, on arrive comme ça, ce matin, en Exode 3. Où est-ce qu'il en est, Moïse ? Eh bien, on peut résumer sa situation en deux chiffres, 400 et 40. Donc, 400, comme les 400 ans passés par les Hébreux en Égypte, d'abord sous un régime libéral plutôt favorable, et puis il y avait eu un changement de dynastie, c'est ce qu'on apprend dans les deux premiers chapitres de l'Exode, et les Hébreux avaient passé des décennies et des décennies sous un régime oppressif, dans l'esclavage, victime d'un génocide, en fait. C'est ça qui s'était produit. Mais 400 ans, c'était aussi et surtout la période pendant laquelle Dieu n'avait pas parlé. 400 ans de silence. Alors nous, on arrive dans ce passage-là et on voit Dieu qui parle avec Moïse, et ça ne nous semble même pas bizarre, parce qu'on est peut-être habitué à voir ça dans la Bible, et on s'imagine qu'au temps biblique, Dieu parlait tout le temps avec son peuple. Mais ce n'est pas du tout ça. Il faut bien vous imaginer que quand Dieu dit ici au verset 4 « Moïse, Moïse », il brise un silence qui durait depuis en fait, que les Israélites étaient descendus en Égypte. Il brise un silence de 400 ans. Alors regardez à la fin du chapitre 2, ce que Dieu nous dit, c'est de produire après ces 400 ans pour qu'il se décide enfin à parler. Chapitre 2, verset 23. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Le rappel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. » Dieu entendit leur soupir, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Dieu se souvint, est-ce qu'il avait oublié ? Est-ce qu'il est amnésique ? Est-ce qu'il n'avait pas vu les souffrances de son peuple pendant toutes ces années ? Pourquoi, s'il est prêt à agir maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi plus tôt pour les délivrer ? Vous voyez le genre de questions que Moïse est en train de se poser probablement quand il pense à ce premier chiffre, 400. Et puis il y a 40. 40 comme les 40 années passées par Moïse dans le désert en exil. Parce qu'après qu'il a été retiré des eaux, on vient d'en parler, il a été retiré des eaux à sa naissance par la fille du Pharaon, Moïse a passé les 40 premières années de sa vie dans le palais du Pharaon. Il était bien au chaud, hein, au sommet de la gloire, au sommet du pouvoir. Et puis un jour, il a voulu prendre les choses en main par lui-même. Et puis, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, vous la connaissez peut-être, mais comme Moïse a voulu libérer son peuple en tuant un Égyptien qui frappait un Hébreu, et comment est-ce qu'il a dû s'enfuir à Madian, où il se trouve maintenant. Mais si on avait lu les deux premiers chapitres de l'Exode avant d'en venir à notre histoire ce matin, on serait là au début de cette histoire en se disant que Moïse est un gars violent, irréfléchi, lâche, il a dû fuir devant le Pharaon, il est rejeté par les siens, il est immigrant dans un pays étranger et il est en train de garder un troupeau de chèvres. Il est berger, un métier dont Moïse va dire en fait plus loin dans le livre qu'il était en horreur aux Égyptiens. Donc voilà le prince d'Égypte derrière des chèvres. Il est au plus bas, vraiment. Regardez le verset 1 encore une fois. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, c'est même pas son troupeau. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. Horeb qui signifie, puisqu'on est un peu dans les noms ce matin, le lieu de la désolation, de la solitude, de la destruction. Donc voilà où en est Moïse. Mais on s'est déjà tous trouvés là, n'est-ce pas ? Dans le lieu de la désolation, de la solitude, de la destruction. Je veux parler bien sûr de nos échecs, de nos doutes, des inquiétudes, des frustrations qui nous gagnent parfois. Est-ce qu'il ne nous arrive pas à nous aussi de passer par des circonstances difficiles, douloureuses, pour lesquelles il semble qu'il n'y a pas vraiment de solution, et dans lesquelles on s'est parfois mis nous-mêmes, en fait. Ça peut être une situation avec votre famille, une tension peut-être avec vos parents, avec vos enfants, Vous aimeriez rétablir la relation, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Ça peut être un choix de vie que vous avez fait. Et puis, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, mais vous êtes mis dans une situation où vous avez l'impression que ce choix, c'est juste un échec, en fait. Il n'y a pas moyen d'en sortir, c'est sans issue. Ou ça peut être peut-être une tension au travail par laquelle vous êtes en train de passer. Et vous avez une pression qui est sans arrêt sur vous, qui vous empêche de dormir. Vous savez comment c'est. On réfléchit à ce qu'on aurait pu faire, on réfléchit à ce qu'on n'a pas fait, tout en sachant qu'il n'y a rien qu'on puisse faire maintenant pour changer quoi que ce soit, et ça tourne. Moïse aussi se sentait comme ça, okay. Inquiet, frustré aussi probablement, parce que, imaginez-vous, il pensait avoir cette mission d'aller délivrer son peuple, et puis il avait essayé de le faire, et il avait échoué une première fois, et puis il avait échoué encore, et maintenant il se retrouve dans une situation où il devait se sentir laissé à lui-même en fait, frustré. Et cette frustration, on la connaît bien nous aussi, parce que même dans les choses banales du quotidien, est-ce que il vous arrive que les choses n'aillent pas comme vous voudriez qu'elles aillent? Bien sûr, hein, ça nous arrive tout le temps. Et lorsque les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent, ça nous frustre. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle tout simplement qu'on n'a pas cette vérité douloureuse, qu'on n'a pas les choses dans, on est bien petit, on est bien faible, et on n'a pas les choses dans nos mains. Qu'on n'est pas en contrôle. Je regardais dernièrement un documentaire sur la politique à la Maison-Blanche, et avec toutes les intrigues et tout ce qui se passe derrière la scène, certainement ce qui peut se produire aussi en France à l'Élysée, on peut s'imaginer. Et un des personnages qui était interviewé disait que la politique, c'est l'illusion du choix. La politique, c'est l'illusion du choix. Puis moi, je me disais, mais ce n'est pas que la politique, c'est la vie qui est l'illusion du choix. Hein, parce qu'on est tout le temps dans des situations qu'on n'a pas vraiment choisies et qui peuvent être frustrantes, et qui peuvent être difficiles à vivre. En quoi est-ce que cette frustration nous pousse habituellement? Si vous examinez votre situation, peut-être la semaine qui s'est écoulée, à quoi est-ce qu'elle nous pousse généralement? Au désespoir, peut-être, à l'amertume, à la colère contre la chose ou la personne qui nous a mis dans cette situation ou qui nous bloque, de la colère même envers Dieu peut-être, qui semble bien silencieux, amnésique, absent dans nos circonstances. Mais voyez, je crois que si Dieu nous amène dans ces situations-là, dans nos vies, à Horeb, on pourrait dire, comme Moïse, c'est parce qu'il veut nous enseigner une chose bien précise. Il veut nous montrer qu'il agit en son temps et à sa manière. Il nous montre ça au moyen d'une petite phrase qui revient trois fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure pendant la lecture, il y a une phrase qui revient trois fois et qui nous rappelle que le timing de Dieu n'est pratiquement jamais le même que le nôtre et ses voies ne sont pas les nôtres. Cette petite phrase, on la trouve tout d'abord au chapitre 2, verset 24, regardez. Dieu entendit leurs soupirs, les soupirs des Israélites, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et puis chapitre 3, verset 6 encore. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et puis chapitre 3, verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. S'il y a une phrase qui revient comme ça trois fois, est-ce que ce n'est pas que Dieu est en train d'essayer de nous dire quelque chose? Je pense que oui. Vous savez que vous vous rappelez certainement que Dieu avait fait des promesses à Abraham, Isaac et Jacob. Et il y a une de ces promesses qui est très importante pour nous ce matin. Vous pouvez venir voir avec moi, si vous voulez, c'est dans Genèse 15. En Genèse 15, Dieu a fait une promesse particulière qui nous aide à comprendre notre passage de ce matin. Genèse 15, les versets 13 et suivants. Genèse 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, justement, « Sache que tes descendants, les Israélites, seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. 400 ans. Vous voyez, Dieu n'avait pas oublié son peuple pendant tout ce temps, mais Dieu agit simplement en son temps et à sa manière avec un but précis qui est de produire en nous exactement la réaction équivalente, si vous voulez, à celle que Moïse a. Si vous revenez avec moi en Exode 3, verset 9 et suivant, Il agit en son temps pour produire en nous, qui sommes dans ces circonstances difficiles, cette réaction que Moïse a en Exode 3, verset 9. Une fois que les 400 ans de silence ont été brisés, une fois que les 40 ans d'attente dans le désert se sont terminés, Dieu lui dit, regardez, chapitre 3, verset 9, « Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Et quelle est la réaction de Moïse à ce « maintenant » Verset suivant, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je ? Qui suis-je pour aller vers le Pharaon ?» Et c'est exactement là qu'il voulait amener Moïse, c'est-à-dire au bout de lui-même en fait. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Quand il nous fait passer par des temps d'épreuve, des temps plus difficiles, c'est nous amener à reconnaître que par nous-mêmes, on ne peut rien, et nous amener à dépendre de lui. Mais remarquez encore juste une chose, comment est-ce que Dieu répond lorsque Moïse lui dit « Qui suis-je ? » Dieu répond en disant, tu es... Non. Qui suis-je ? Dieu répond, je suis. Verset 12. Je suis avec toi. Dieu agit en son temps et à sa manière, mais son silence, comme ici pendant ces 400 ans, il est toujours porteur de sens. Son absence, elle est toujours fidèle. Et je dis ça, vous voyez, enfin... Je sais que c'est plus facile à dire qu'à vivre et que c'est justement quand on est à Horeb, dans ces moments-là de désolation, de solitude, que c'est justement là qu'on ne peut plus croire à ça, qu'on veut plus croire que l'absence de Dieu est toujours fidèle. Et pourtant, Dieu nous dit « Je suis avec toi » dans chaque circonstance, dans chaque épreuve difficile, dans chaque douleur. Est-ce que vous êtes peut-être là ce matin avec le cœur lourd, avec un fardeau, Dieu vous dit « Je suis avec toi ». C'est la première chose qu'on voit ici. On voit la fidèle absence de Dieu. Et puis, il y a une deuxième chose, une deuxième grande contradiction. C'est la sainte présence de Dieu dont il est question ici. La sainte présence de Dieu. Et je dis, là, c'est encore une grande contradiction. Regardez au verset 3. Au verset 3, Moïse qui promène ses chèvres, okay, on en est là dans l'histoire, il promène ses chèvres, il s'ennuie un peu, on le comprend. Il est seul à Horeb dans le désert, derrière ses chèvres. Mais tout à coup, il voit un buisson en feu et ça pique sa curiosité. On verra tout à l'heure pourquoi il est curieux. Mais pour le moment, il n'est pas effrayé, il est juste curieux. Et il va voir, regardez au verset 3, Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici. » Dieu dit « N'approche pas. » Voilà la grande contradiction. « Moïse, Moïse, n'approche pas. » Il faut savoir qu'en hébreu, quand vous voulez souligner comme ça l'intensité ou la grandeur de quelque chose, vous doublez les mots. Par exemple, si vous voulez parler d'une grande montagne, comme le mont Horeb peut-être était une grande montagne, vous allez dire, en fait, littéralement, une montagne. C'est comme ça que vous le dites. Et quand c'est un nom propre qui est doublé, c'est en général pour souligner l'intensité de la relation, la grandeur de l'affection, de la tendresse que se portent deux personnes. Vous pouvez penser, dans la suite de la Bible, au roi David, quand il perd son fils Absalom, qui meurt sur le champ de bataille. David est en pleurs et il dit « Absalom, Absalom, mon fils, Absalom, etc. » Et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Mais... Donc vous avez compris, c'est une marque d'affection et de tendresse pour lui, pour Moïse, lorsque Dieu appelle Moïse et lui dit « Moïse, Moïse !» Et il ajoute tout de suite « Ne t'approche pas !» C'est comme s'il est en train de lui dire « Je veux avoir une relation avec toi, viens dans ma présence, stop ! Arrête !» Je suis un Dieu saint. Et c'est exactement ce qu'il dit dans la suite. Regardez le verset 5. Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Et il découvre ici quelque chose dont il va parler plus tard, en fait, en Exode 33, que « Nul ne peut voir Dieu et vivre. » C'est lui qui le dit. L'être humain pécheur ne peut pas regarder à Dieu, au Dieu saint et vivre. Vous voyez, maintenant on comprend pourquoi Dieu s'est révélé dans une flamme de feu dans le buisson. Et en fait, c'est ça précisément qui a suscité qui a piqué la curiosité de Moïse. Je vous disais, il est curieux. Au début, il était curieux. Il a voulu passer voir ce qui se passait. C'est ça qui a piqué sa curiosité. Moïse savait très bien qu'un feu, il a besoin d'une chose pour brûler. De quoi est-ce qu'un feu a besoin pour brûler? D'un combustible. Il a besoin de ça, il dépend de ça. Et voilà un feu qui brûle sans rien. Parce que il y a une flamme, mais le buisson ne se consume pas. Et c'est comme ça que Dieu se révèle à nous ici. Je suis celui qui suis, encore une fois. C'est-à-dire, je ne suis pas celui que tu veux que je sois. Je ne suis pas celui que tu penses que je suis. Je suis celui qui suis. Ce qui veut dire rien de moins, beaucoup plus certainement, mais rien de moins que Dieu existe par lui-même. Il est pleinement souverain, totalement indépendant, coupé du péché. Dieu est ce qu'il est, il dépend de rien ni de personne. Il est saint, saint, saint. On entend souvent des gens autour de nous, vous l'avez certainement déjà entendu, peut-être que vous l'êtes dit vous-même parfois. Je pense que Dieu est comme ça, comme si. J'aime à penser que Dieu est comme ci ou comme ça. Mais ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible qui se révèle dans une flamme de feu. Ça, c'est un Dieu, on pourrait dire, d'argile. Qui est malléable et qu'on peut former à notre envie. Non, le vrai Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui va me contredire. C'est un Dieu qui va me dire ce que je n'ai pas forcément envie d'entendre sur ma manière de gérer ma vie personnelle, mes relations amoureuses, ma vie de travail, ma vie de famille peut-être. C'est un Dieu qui va me faire attendre, qui va me faire patienter lorsque moi j'aimerais voir les choses bouger dans ma vie et que je me sens bloqué dans une situation, il va me faire attendre. C'est un Dieu qui va m'arrêter, parfois de manière assez brutale, avec des circonstances difficiles, des épreuves, lorsque j'essaie de prendre les choses en main par mes forces plutôt que de compter sur lui. C'est un Dieu qui va m'amener au bout de moi-même, en fait, comme je disais tout à l'heure, s'il le faut. Pour le dire autrement, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu duquel on ne s'approche pas sans devoir, au préalable, avoir enlevé les sandales de ses pieds. Je dis ça en référence à ce que Moïse fait ici. C'est un peu difficile de savoir pourquoi il devait enlever les sandales de ses pieds, mais ce que ça veut dire au moins, peut-être autre chose, mais au moins, c'est que Moïse ne vient pas avec ses prérogatives devant Dieu. C'est Dieu qui établit les termes de la relation et qui lui demande d'abandonner certaines choses pour entrer dans sa présence sainte. C'est Blaise Pascal, le philosophe et le grand savant, vous savez, Blaise Pascal, il a eu une expérience un peu similaire à celle de Moïse, en fait, en lisant ce passage-là dans la Bible. Et on le sait parce qu'il a rédigé, il a raconté son expérience par écrit sur une feuille de papier qu'il a cousue dans la doublure de son vêtement et qu'on a retrouvée après sa mort. Et voilà ce qu'il dit. Écoutez bien comment est-ce qu'il raconte cette expérience qu'il a vécue. Il écrit « L'an de grâce 1654 ». Lundi 23 novembre, c'est un peu comme un journal, hein. Il raconte une expérience qui lui est arrivée un jour précis. Depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi, feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non pas de... Qui ? Des philosophes et des savants. C'est marrant, qui était un philosophe et un savant ? C'était lui, c'était Pascal. Alors, je ne sais pas, voilà peut-être quelles étaient les sandales que lui devait enlever de ses pieds. Je ne sais pas, peut-être son orgueil, son arrogance, sa suffisance du grand homme intellectuel qu'il était, peut-être sa prétention à vouloir faire le tour de la question de Dieu, de prouver l'existence de Dieu alors que Dieu est l'existence même, il est « je suis ». Peut-être que c'était ça. Et je ne peux pas me mettre à votre place. Je ne peux pas savoir quelles sont les choses que Dieu vous demande d'abandonner peut-être dans votre vie ce matin. Est-ce que c'est peut-être une relation dans laquelle vous êtes en ce moment ? Peut-être une relation amoureuse, vous savez qu'elle n'est pas juste, qu'elle n'est pas bonne, et que c'est ça que Dieu vous demande d'abandonner. Est-ce que c'est peut-être certaines activités que Dieu vous demande d'abandonner qui vous retiennent de passer plus de temps avec lui dans la prière ? Est-ce que c'est peut-être un peu à l'image de Pascal, une attitude de cœur, plutôt, un peu peut-être de suffisance ou d'orgueil ou de scepticisme peut-être face à Dieu. Peut-être que vous êtes ici ce matin et que vous écoutez tout ce qui est en train de se passer, vous êtes un peu sceptique face à tout ça, sceptique face à la foi, vous ne savez pas trop quoi penser de tout ce qui est dit sur Jésus, sur Dieu. Moi, j'aimerais vous encourager à, j'ai envie de dire, à être sceptique face à votre propre scepticisme un instant. Parce qu'on a toutes sortes de raisons de ne pas croire en Dieu. Je viens de le dire il y a un instant, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui va me contredire. C'est un Dieu qui va me dire quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas dans ma vie. C'est un Dieu qui va intervenir pour changer des choses. On a tous toutes sortes de raisons de ne pas croire dans un Dieu comme ça. Donc si vous êtes là ce matin et que vous êtes peut-être un peu sceptique sur la réserve, j'ai envie de vous dire, soyez sceptique face à votre scepticisme et soyez ouvert. Écoutez ce que Dieu nous dit par rapport à son caractère, qui il est, et venez à lui aussi dans la prière, lui demander de rétablir sa relation avec vous. J'aimerais juste vous faire remarquer une dernière chose et puis on va passer au dernier point. Remarquez une chose quand même, c'est que Moïse a beau enlever les sandales de ses pieds, ça ne lui permet pas pour autant d'avancer vers Dieu. Vous avez remarqué, tout ce que ça lui permet, c'est de se tenir debout sur le terrain sur lequel il se trouve, sur cette terre rendue sacrée par la présence de Dieu. Mais il est toujours à une certaine distance de Dieu, il ne peut toujours pas lever les regards, il ne peut toujours pas regarder Dieu. Et ça, vous voyez, c'est le dilemme. C'est le dilemme dans lequel on se trouve tous, les êtres humains pécheurs que nous sommes. C'est-à-dire que la grande contradiction qu'on a vue dans le premier point, c'est que l'absence de Dieu est toujours fidèle pour ceux qui lui appartiennent. Mais la grande contradiction qu'on voit ici, c'est que la présence de Dieu, elle est toujours sainte. Il ne peut pas se renier lui-même pour être en présence de nous. Le Dieu saint, saint, saint qu'il est, ne tolère pas le péché, en fait, dans lequel on se trouve, et dans le mal et l'injustice qu'on commet encore et dont on est parfois aussi les victimes, bien sûr. Et ce dilemme-là, Dieu ne peut le résoudre qu'au moyen d'une autre grande contradiction, et c'est la dernière que je vous donne ce matin, c'est sa vulnérable puissance. Sa vulnérable puissance. On a vu la fidèle absence de Dieu, la sainte présence de Dieu, et finalement sa vulnérable puissance. Et il faut juste qu'on dise un mot maintenant de celui que j'ai laissé pour le moment de côté, et dont il est question au verset 2, qui est l'ange de l'Éternel. Regardez au verset 2, cette figure qui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Et ce qu'il y a d'étrange ici, c'est qu'au verset 2, c'est l'ange de l'Éternel qui est au milieu du buisson. Mais si vous regardez plus loin, au verset 4, c'est Dieu qui est au milieu du buisson. Regardez. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson. Donc il semble que la voix qui, du buisson, appelle Moïse à lui, c'est pas la voix de l'ange, mais c'est celle de Dieu. Ou est-ce que c'est celle de l'ange? Ou est-ce que c'est les deux? Vous voyez comme la ligne de démarcation entre Dieu et son ange est étrangement floue. Et probablement que ce que ça nous montre, c'est que l'ange de l'Éternel est en fait une manifestation de Dieu lui-même, identique à Dieu et pourtant distinct. On pourrait dire que c'est à la fois l'ange de l'Éternel et l'ange qui est l'Éternel. Et en fait, vous le savez si vous avez lu un peu le reste de l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu vient vers son peuple dans l'Ancien Testament, il le fait au moyen de son ange. C'est particulièrement vrai dans la suite de l'Exode. Vous connaissez certainement cette histoire. Le peuple d'Israël finalement sort du pays d'Égypte sous la direction de Moïse. Et l'ange de l'Éternel guide le peuple au travers du désert comme une colonne de nuée pendant le jour, une colonne de feu pendant la nuit. C'est l'ange de l'Éternel qui guide le peuple d'Israël dans le désert pour arriver jusqu'à cette montagne, le mont Horeb ou le mont Sinaï, c'est la même montagne. Et c'est justement en fait le signe que Dieu avait donné ici au verset 12, regardez, le signe que Dieu avait donné à Moïse pour l'assurer de sa présence à ses côtés. Verset 12, Dieu dit, je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, vers les Israélites, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Seulement nous, on connaît la suite de l'histoire, et on sait que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Vous vous rappelez, sur cette montagne, ils n'ont pas vraiment rendu un culte à Dieu, ils ont rendu un culte à des idoles. Ils se sont fait un veau d'or, malheureusement. Et Moïse, en Exode 33, vous n'avez pas besoin de tourner avec moi, je vais simplement vous lire ce verset-là. En Exode 33, à ce moment précis de l'histoire, quand le peuple d'Israël s'est complètement détourné de Dieu, Moïse, qui est lui devenu l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, se retrouve à intercéder pour le peuple et il supplie Dieu de ne pas les laisser, malgré ce qu'ils ont fait, mais de monter avec eux jusque dans la terre qu'il leur avait promise. Et voilà ce que Dieu lui répond. Et écoutez bien, et ça va nous montrer qui est cet ange de l'Éternel, un peu plus précisément. Dieu dit, « J'enverrai devant toi mon ange, devant le peuple, devant le peuple mon ange, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple rebelle. » Vous voyez, Dieu dit, « Je ne vais pas monter, moi, parce que si je monte, ça va mal se passer pour vous, mais je vais envoyer mon ange. » Et donc ça nous montre, voilà qui est l'ange, à la fois identique à Dieu et distinct, envoyé de Dieu, et Dieu lui-même, sans abandonner, on pourrait dire, les prérogatives de Dieu, ou sans diminuer en rien la sainteté de Dieu, il s'accommode à la présence, à la compagnie de pécheurs tels que nous. Voilà qui il est. Et réfléchissez encore une chose. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce passage, finalement, cet ange de l'Éternel ? Et on revient à ce que je disais au tout début. Qu'est-ce qu'il est venu faire, en fait, dans cette flamme de feu dans le buisson ? Il est venu révéler le nom de l'Éternel. C'est ça qu'il est venu faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, dans les religions païennes, particulièrement en Égypte en particulier aussi, connaître le nom d'une divinité, ça donnait accès, en tout cas c'est ce qu'il croyait, ça donnait accès à son pouvoir. Et ce nom pouvait être utilisé par toutes sortes de pratiques un peu occultes, toutes sortes d'incantations, pour manipuler la divinité, pour domestiquer les dieux. Alors, Dieu ne peut pas être domestiqué, mais le fait qu'à peine quelques chapitres plus loin, dans le livre de l'Exode, Dieu avertit son peuple par ce commandement, qui fait partie des 10 commandements, donc vous le connaissez, c'est sûr, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Le fait qu'il les avertit par ce commandement-là, à peine plus tard, ça nous montre que la tentation a été bien là pour le peuple d'Israël d'utiliser le nom de Dieu pour manipuler Dieu, quitte à traîner le nom de Dieu dans la boue en adorant des idoles et en faisant des veaux d'or et en crachant finalement sur Dieu, en l'abandonnant. Mais donc vous voyez ce qui est en jeu en fait quand Dieu révèle son nom, c'est pas juste qu'il donne quelques informations supplémentaires qui sont intéressantes à prendre. Quand Dieu révèle, ce qui est en jeu quand il révèle son nom, en révélant son nom, je suis celui qui suis, un nom qui va prendre de plus en plus de sens au fur et à mesure que le livre de l'Exode avance, c'est que Dieu se révèle comme un Dieu qui sauve, qui fait grâce, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, etc. En révélant son nom, Dieu se rend vulnérable aux hommes, il se met à la merci des hommes. Voilà ce que l'ange de l'Éternel est venu faire dans ce passage. Et si vous réfléchissez, ce que l'ange de l'Éternel fait dans ce passage-là, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire sur cette terre. Lui qui est à la fois identique à Dieu et distinct, envoyé de Dieu et Dieu lui-même. Rappelez-vous, il dit dans l'évangile de Jean, « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis ». Sans abandonner les prérogatives de Dieu ou sans diminuer la sainteté de Dieu en rien, il s'accommode à la compagnie de pécheurs tels que nous. C'est lui, ce feu brûlant qui ne consume pas. Et c'est lui qui, par sa venue, est venu, on pourrait dire, étendre le sens du nom de Dieu, donner le sens plein. Rappelez-vous, dans l'évangile de Jean encore, « Je suis, par exemple, le cep. » Vous les sarments, sans moi vous ne pouvez rien faire. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Je suis. Voilà les paroles de Christ dans l'évangile de Jean. Et ce « je suis » s'est rendu vulnérable jusqu'à la mort sur la croix, où il a pris nos péchés sur lui, où il a subi le jugement de Dieu à notre place, pour que justement ce dilemme-là puisse être rétabli, qu'on puisse être dans la présence de Dieu, en règle avec lui, réconcilié avec lui. Et ça, c'est le cœur de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour tous ceux qui se confient en Jésus. Donc pensez-y, la puissance de Dieu a été manifestée au grand jour, le jour où il s'est rendu le plus vulnérable, à la croix. Voilà la vulnérable puissance de Dieu. Et c'est la bonne nouvelle vraiment pour nous ici ce matin. Et c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir vous apporter cette bonne nouvelle, la partager avec une église sœur dans la région ici de Grenoble, de nous rappeler qu'en Christ, ce sauveur qu'on a en commun, alors vraiment toutes les absences de Dieu sont fidèles. Si vous avez été unis avec lui par la foi, alors vraiment il est « je suis » pour toujours et aujourd'hui aussi, pour vous, avec vous, dans les situations par lesquelles vous êtes en train de passer. Et en Christ aussi, la présence de Dieu est sainte en nous et on a sa présence en nous par son esprit, comme une flamme de feu, mais qui ne nous brûle pas, mais qui nous anime pour lui rendre un culte, hein, plein de joie, comme on le fait ce matin. Et c'est un privilège pour moi d'être avec vous et de partager ce culte aussi ici ce matin. Voilà ce que Dieu a fait par sa vulnérable puissance. Voilà ces trois choses auxquelles le nom de Dieu renvoie et que je voulais partager avec vous ce matin. Voyons, je conclurai simplement en disant, on ne peut pas se confier en nous-mêmes. Je peux pas me confier en moi, je connais mon cœur. Et on ne peut pas se confier en soi, mais on peut se confier dans un Dieu comme ça, non ? On peut se confier dans un Dieu qui est comme ça. Ceux qui connaissent ton nom éternel, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Et vraiment, ma prière, c'est que ça puisse être vrai pour chacun d'entre nous ici ce matin. Je vous invite à la prière. Prions. Éternel, quel privilège de te connaître comme ce Dieu qui est tout autre, qui dépasse nos catégories, qui est ce Dieu trois fois saint, parfait et tellement inaccessible pour nous qui sommes bien faibles et pécheurs, et en même temps ce Dieu qui s'est rendu vulnérable dans la personne de Jésus, ton Fils, à la croix, qui s'est donné pour que nous puissions être réconciliés avec toi et vivre cette vie dans ta présence, cette vie pleine et joyeuse, cette vie glorieuse aussi en Église. Et nous te remercions, Seigneur, pour tous ces bienfaits que tu nous donnes en Christ et cette unité aussi que tu nous donnes en lui entre les différentes églises de cette région. Je te prie que tu puisses nous assister chacun ici dans cette pièce, à repartir ce matin avec des vérités qu'on puisse appliquer à nos cœurs et à nos vies, que nous puissions être encouragés et fortifiés en ayant regardé à toi et en ayant vu combien tu es fort, combien tu es grand et combien tu es bon, Jésus-Christ. Dans son nom, nous te prions. Amen.